Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Alors je rappelle effectivement, on est lundi au moment où on enregistre ce podcast, donc on a vu quelque chose hein, de la Vuelta, et on a vu surtout, comment on l'a raté, Tadej Pogacar, qui a pris des risques pour gagner, alors qu'on entendait les mots économie sortir de sa bouche avant le départ. Tu voulais en parler Jérôme, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Poggi?
Ouais, je voulais en parler. Alors, on va parler de Julien Alaphilippe et d'un certain romantisme du vélo. Alors, Tadej Pogacar, c'est peut-être pas ça, mais je veux quand même lui tirer un coup de chapeau. Moi, qu'on l'aime pas, qu'on croit en lui ou pas, ça reste quand même un coureur qui est là toute l'année, qui fait le spectacle. Ce qui me frappe le plus chez lui, au-delà de son palmarès et de ses résultats, c'est vraiment, tu l'as dit un peu, Georges, mais la prise de risque permanente qu'il prend pour gagner. Il a dit, je veux pas faire trop d'efforts. Mon objectif, c'est de gagner les trois grands tours, de gagner cette Vuelta. Et finalement, comme l'année dernière sur le Tour à Montmartre, sous la pluie, alors que les temps étaient figés, qu'il avait déjà le tour gagné, il a quand même tout fait pour essayer de remporter l'étape. Même chose quand il va sur Paris-Roubaix, il sait que mettre les roues sur les pavés de Roubaix, c'est dangereux, que potentiellement ça peut hypothéquer la suite de sa saison, et notamment le Tour de France, mais il y va quand même. Et sur cette première étape de la Vuelta, c'était exactement la même chose. C'était un chrono un peu particulier, à mi-chemin entre le prologue ou le vrai chrono, 9 km seulement, très technique, dangereux, on a vu les images, beaucoup de virages, des portions où il fallait vraiment engager. Voilà, c'est typiquement le genre de parcours, tu l'as dit Georges, où il faut prendre le risque de perdre pour pouvoir gagner. Lui, il aurait très bien pu se dire la Vuelta, ça dure 3 semaines, je joue le classement général, je fais un chrono propre sans prendre trop de risques. J'ai de toute façon largement de la marge pour aller gagner le classement général. Mais non, lui, il est allé chercher la victoire pour 9 centièmes. Il a pris tous les risques, même s'il connaît bien le parcours. Il faut quand même oser se lancer à ces vitesses-là dans les virages pour prendre le maillot de leader. Et cette victoire, justement, ça lui offre la possibilité de porter le maillot rouge, éventuellement du début à la fin de la Vuelta, mais ça montre surtout qu'il continue de progresser dans le chrono. Tu me parlais du chrono, je t'ai dit que j'allais y venir, je ne peux pas faire une chronique sans parler de chrono.
Oui, t'inquiète, on a bien compris.
Bien sûr. Et finalement, le chrono de cette première étape de la Vuelta, ça résume assez bien Pogacar, c'est un gagnant, il ne sait pas faire autrement, et il domine tellement son sport qu'il doit forcément trouver de nouvelles choses à aller chercher. Là, c'est un prologue sur un grand tour, pour rester motivé, pour continuer à progresser. Et les défis, il en a encore, on a parlé de Paris-Roubaix, c'est le dernier monument qui lui manque, il en a fait un objectif majeur. Son deuxième objectif, ça va être, il a 5 Tours de France, mais d'en gagner un 6e pour être le seul au sommet de l'histoire du Tour. Mais moi, personnellement, il y a un défi que j'aimerais le voir tenter, c'est de devenir champion du monde du chrono. Parce que Pogacar, on sait, il est très fort sur les chronos dans les grands tours, il continue de progresser, on l'a dit. Sur les chronos d'un jour, notamment les championnats du monde, il y a quand même souvent plus fort que lui. Et ce quelqu'un qui est souvent plus fort que lui, c'est évidemment Remco Evenepoel.
Il lui a mis un éclat l'année dernière à Kigali.
Il l'a même rattrapé à Kigali. Et ce qui est intéressant avec sa victoire sur la première étape du Tour d'Espagne, c'est que finalement, c'est un chrono d'un jour. Tout le monde arrive frais, tout le monde a les mêmes jambes sur la première étape d'un chrono, et Tadej Pogacar prouve qu'il a les qualités pour gagner un chrono sur les courses d'un jour. Et comme je suis un amoureux du chrono, moi, je veux voir jusqu'où Tadej Pogacar est capable de progresser dans cette discipline et d'aller. J'aimerais voir Tadej Pogacar préparer le championnat du monde chrono et en faire un de ses objectifs de fin de saison. Ce que je veux voir, c'est Tadej Pogacar une fois être le meilleur rouleur du monde sur une journée, en gros être champion du monde, et pourquoi pas dès 2027 sur les championnats du monde en France à Sallanches, qu'on annonce en tout cas la course en ligne très difficile, le chrono certainement aussi, parce qu'au fond ce qui est le plus intéressant avec Tadej Pogacar, c'est qu'il continue à aller chercher ses limites et à les repousser. On aime ou on l'aime pas, mais en tout cas il continue à créer des choses, et tant qu'il aura des nouveaux défis, on continuera à avoir un coureur qui, même après avoir quasiment tout gagné, trouve encore le moyen de prendre des risques pour aller gagner un chrono sur la Vuelta de seulement 9 km. Donc chapeau Tadej.
Bon, en fait, je sais pas quoi penser, Jérôme, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux encore lui donner comme idée? Il va aller gagner partout.
ouais, mais il manquait les chronos. Bien sûr. Je veux le voir au championnat du monde, vraiment préparé, sans penser à la course en ligne. Je veux voir ce qu'il est capable de faire en ayant ça comme objectif. Mais tu veux bien qu'on lui trouve des trucs. Pogacar, il va remporter la Vuelta.
Tu veux le voir en arc-en-ciel tout le temps, en fait. Tu veux jamais le voir sans. C'est un défi à sa hauteur.
On veut le voir champion olympique aussi.
Ah oui,
2028, exact.
Pierre, moi, c'est le défi que j'avais proposé à Mathieu Van Der Poel pour qu'il ait tous les arcs-en-ciel du vélo.
Du jeu, ouais.
Et qui, là, serait un truc vraiment dingue. Pour Tadej, pourquoi pas aussi. Je ne suis pas sûr que ça l'amuse autant que ça. C'est un circuit de 9 km avec plein de virages comme celui qu'on a vu. C'est marrant, en fait.
Oui.
C'est ludique comme contre la montre. 55 bornes pour les championnats du monde, c'est un peu moins ludique quand même.
Johan ?
Non, moi, pour moi, c'est, ça ne doit pas devenir un objectif pour Pogacar. Je pense que gagner Paris-Roubaix, ce sera l'objectif principal et là, il aura terminé le jeu.
Il peut en avoir plusieurs.
Être champion du monde, en fait, la hiérarchie s'inverse. C'est-à-dire que sur les courses normales, sur les grands tours, on a Vingegaard et Evenepoel qui tombent sur le meilleur coureur de tous les temps avec Merckx et c'est Tadej Pogacar. Pour le coup, Tadej Pogacar, il prend Remco Evenepoel en pleine poire et c'est certainement le meilleur rouleur de tous les temps. Donc pour moi, ça ne doit pas devenir un objectif pour lui et Pierre a raison. Le contre-la-montre de Monaco, il était spécial. Et là où moi je suis admiratif de Pogacar, c'est, on en parle peu, on parle beaucoup de sa force physique et que c'est le meilleur du monde évidemment, mais techniquement c'est un monstre aussi Tadej Pogacar, on l'a vu dans les descentes sur le Tourmalet, notamment pour ce Tour de France, mais là ce qu'il fait dans les rues de Monaco, c'est comme ça qu'il va gagner pour 9 petits centièmes, mais la marge elle est encore trop loin par rapport à Remco Evenepoel.
Pile, ça t'exciterait?
Bah après, surtout, il y a un élément, et ça te permettra de faire la transition, c'est que je regardais tout à l'heure le parcours, toute la carrière d'Alaphilippe. Je comparais notamment avec Peter Sagan, et il y a une courbe qui est intéressante, elle est la même pour ces deux coureurs-là, c'est qu'à 27 ans, ça commence à descendre, les performances. Et donc, Tadej Pogacar, il a 27 ans. Donc, on peut lui mettre tous les objectifs qu'on veut. Logiquement, la logique physique fait que ça va descendre tranquillement. Donc, après, cet objectif-là de chrono, bon, c'est le truc de Jérôme Coppel.
Non, mais Jérôme, tu sais, moi, je vais aller dans ton sens. Tu sais pourquoi ? Parce que dans la discussion, ça m'a fait penser à ça. C'est que pourquoi ce sera un objectif pour Pogacar ? C'est justement parce qu'il a été humilié sur ce truc-là.
Oui.
Il a été humilié et il marche à ça, Pogacar. Ah ouais, je me suis fait casser la gueule. J'ai été humilié devant le monde entier par Remco. Je vais bosser ce truc-là. Vous allez voir, je vais l'éclater.
Mais bien sûr.
Je ne sais pas s'il arrivera, mais il marche un peu à ça.
Mais bien sûr, Paris-Roubaix lui résiste, il veut y aller. Les championnats du monde chrono, c'est juste... Bien sûr qu'il n'en fera peut-être jamais un objectif, mais Johan, tu parlais de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est au mois d'avril. Il a largement le temps de repréparer les championnats du monde.
Oui, et avoir des qualités de rouleur, ça ne t'empêche pas de gagner Paris-Roubaix. Au contraire.
Mais non, au contraire. Si un parcours lui convient bien, vraiment difficile, alors je ne parle pas d'un chrono vraiment chantier, mais un peu difficile, lui, ce n'est pas un problème d'aller faire 50 kills de chrono s'il le prépare un petit peu. Et là, par rapport à Remco Evenepoel, on sait jamais ce qui peut se passer. Et je pense que c'est un truc à cocher pour lui. Tu as été champion du monde sur route, et champion du monde chrono, ça a quand même de la gueule. Et je pense qu'en fin de saison, c'est vraiment un truc, si le parcours lui convient, qui pourrait l'intéresser quand même.